Oui, merci tout d'abord à l'Institut national du patrimoine et à Jean-François Chounier d'avoir pensé à notre exposition pour aujourd'hui. Donc, c'était l'exposition inaugurale du MUCEM, qui, comme vous le savez, a ouvert ses portes au mois de juin 2013. Donc dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Et je pense que les deux événements à la fois se sont nourris l'un de l'autre pour assurer la réussite de cette année à Marseille. Je suis moi historienne, je ne suis pas issue des métiers du patrimoine. Donc j'ai beaucoup travaillé au départ sur le Maghreb. Et là, le challenge en fait qui était le nôtre, c'était de travailler sur l'ensemble de l'espace méditerranéen. Donc ça a été aussi une aventure personnelle qui m'a évidemment beaucoup nourrie pendant plus de 3 ans. Donc Thierry Fabre, je le rappelle, était commissaire général de l'exposition. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au dialogue interculturel et a montré que les connaissances finalement qui sont les nôtres sont héritières de diverses civilisations, de diverses cultures depuis longtemps à travers les rencontres d'Averroès, qui ont lieu à Marseille depuis longtemps, ou aussi au travers de réseaux universitaires comme le réseau Ramsès, pour lequel aussi moi j'avais apporté ma modeste contribution, puisque j'avais participé à une conférence à Alexandrie, mais qui montre qu'il y a en amont de cette exposition qui s'appelait « Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen », tout un travail de conception de cette Méditerranée et de savoir quelles étaient les représentations qui étaient à l'œuvre de cette Méditerranée dans un temps qui est plutôt proche de nous, puisque nous nous sommes intéressés à la Méditerranée du XVIIIe siècle à nos jours. Le titre est aussi important, donc on a voulu se saisir de cette métaphore du noir et du bleu pour montrer qu'une exposition de civilisation ne pouvait pas aller vers l'angélisme, comme si les choses allaient de soi, mais que cette notion de civilisation a voyagé dans l'espace méditerranéen et ailleurs, très souvent de manière conflictuelle avec d'autres sociétés, d'autres cultures, et que ce rêve méditerranéen, donc nous on a dit un rêve méditerranéen, puisqu'il y en a aussi d'autres, a été le rêve des Européens, à partir du XVIIIe siècle, en gros, pour essayer de propager leur, à la fois, ce qu'ils considéraient comme leur supériorité militaire, politique, mais aussi leur conception du monde. Donc nous avons essayé, puisque c'était l'ouverture d'un musée de civilisation, de questionner finalement à la fois les mots et les choses, c'est-à-dire comment ces termes de civilisation ont voyagé dans cet espace méditerranéen, quels ont été les impacts que les autres sociétés ont pu ressentir au moment où ces sociétés ont vu arriver aussi bien Bonaparte avec l'expédition d'Égypte que les Français un peu plus tard en Algérie avec la conquête coloniale. Donc c'était un peu cette ambition de vouloir questionner ces notions qui souvent vont de soi. Moi j'ai été très longtemps enseignante dans le secondaire et donc il y a des notions que finalement on donne aux élèves comme allant de soi. On fait parfois pareil aussi à l'université. Or, finalement, on s'aperçoit de toute cette construction historique qui est à l'œuvre. Et donc, c'était un challenge relativement important d'arriver à l'ouverture de ce musée de civilisation, de l'Europe et de la Méditerranée, donc avec des enjeux lourds sur les épaules, de réussir cette exposition qui occupait un espace important du MUCEM, puisqu'elle était surtout le deuxième plateau, enfin pour ceux qui l'ont vu, et qui, évidemment, occupait plus de 1500 mètres carrés. Donc nous avons dit dès le départ qu'il s'agit d'une découverte de représentation de la Méditerranée, qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas non plus une exposition historique, mais qui essaie de, à travers un parcours, à travers un voyage, de questionner les représentations qui ont été celles de ce rêve européen de faire de la Méditerranée une sorte de lac européen à partir de la fin du XVIIIe siècle. Autre chose importante dans l'exposition, nous avons voulu aussi, puisque c'est une exposition de civilisation, on a parlé ce matin de la place du document, par exemple, dans l'exposition, montrer que, puisque nous n'étions pas dans une exposition artistique, il fallait associer d'autres expressions, d'autres pratiques, d'autres médias. Et donc, nous avons travaillé pour documenter l'exposition aussi en sélectionnant des affiches, des dessins, des revues, des documents qui sont considérés souvent comme des documents que l'on n'expose pas, mais qui sont à chaque fois des traces justement de ces références culturelles qui ont été données à un moment donné dans l'histoire de la Méditerranée comme supérieures aux autres. Alors, on a parlé un moment des scénographes aussi ce matin. Je vous ai mis ici simplement les premiers plans pas les premiers, parce que là, c'était déjà un travail assez abouti, mais le scénographe Maciek Fischer nous avait proposé le concept de la rue. Et on a trouvé que c'était intéressant, puisque même si ce n'est pas une exposition d'histoire, on avance dans le temps, de voir qu'à partir de... À partir du début de l'exposition qui était ici, on avait une sorte de parcours qui pouvait se faire comme une ligne de temps ici, dans une sorte de rue, Maciek avait appelé ça la rue, et qui en fait se déclinait dans une sorte de parcours sinusoïdal qui nous permettait d'aborder les 12 moments de l'exposition les uns après les autres, mais en montrant qu'en fait, ils n'étaient pas séparés les uns des autres, justement, et qu'il y avait une sorte de continuité qui était à l'œuvre. Autre pièce importante aussi dans l'exposition qui se trouvait ici, un miroir, parce qu'on a beaucoup réfléchi à cette idée, comment peut-on essayer de parler de contact ou d'impact, par exemple de l'expédition d'Égypte, on y reviendra, de contact entre des civilisations différentes, alors que l'on a des pratiques culturelles tout à fait différentes d'une société à l'autre, en particulier quand le monde européen est au contact des mondes arabo-musulmans. Il n'y a pas évidemment les mêmes prédilections pour les mêmes références culturelles. Et puis il y a aussi, dans cette dissymétrie des représentations, le fait que l'un est en situation de domination. Donc il y a un lien entre pratique culturelle, production culturelle et politique. L'un est en situation de domination et l'autre en situation de vaincu ou de dominé. Donc on a essayé aussi dans l'exposition de rendre compte de ce qu'on a appelé une réponse en miroir des sociétés qui recevaient de plein fouet cette idée de rêve méditerranéen. Alors ici... On a ensuite, je vais enlever la flèche, ça c'était le premier plateau. Le deuxième plateau de l'exposition, les 500 mètres carrés restants, était plus dédié à l'art contemporain, mais essayait évidemment de répondre aussi aux mêmes questions de principe de cette exposition. Alors, dans l'ouverture, j'ai sélectionné cette phrase parce qu'il me semblait important de vous parler en même temps que l'on pouvait voir comment on avait construit l'exposition, parce qu'on est parti de cette idée qu'il fallait vraiment décrypter ces mots civilisation, mais qu'on allait essayer de le faire sans utiliser une sorte de métalangage universitaire, abscons pour la plupart des gens, et qu'on voulait plutôt utiliser un langage poétique. Donc évidemment, nous avons pour chaque œuvre ou chaque document fait des cartels de manière très cartésienne, on va dire, mais en même temps, nous avons utilisé un langage poétique qui était celui de citation que nous avons utilisé dans toute l'exposition et la citation initiale qui était un peu la plus importante peut-être pour concevoir la suite était celle de Wajdi Mouawad, qui disait que c'était cette part d'intouchable, l'obstination à rêver, dans chaque civilisation. Alors, l'intérêt aussi, je vais peut-être en parler maintenant, puisqu'on a vu la citation, c'était le choix des langues. On ouvrait un musée à Marseille. On dit toujours que c'est une ville cosmopolite, une ville avec de très fortes présences de populations qui sont venues de l'autre côté de la Méditerranée. Et nous, pour les citations et tous les textes de salle, nous avons choisi, par exemple, que l'arabe soit la langue d'exposition au même titre que le français et l'anglais. Alors, c'est toujours peut-être étonnant, mais c'est vrai que dans le musée à l'époque, nous avons été le seul à faire ce choix. L'exposition sur le genre n'a choisi que des langues européennes, et les expositions permanentes ont choisi aussi des langues européennes. Aujourd'hui, dans les expositions qui ont remplacé la nôtre, il y a une exposition sur le Maroc où l'arabe a été aussi choisi. Et moi, je pense que c'était aussi... ça compte aussi dans l'estime de soi et dans la fierté culturelle à la fois d'habitants de Marseille et de gens qui pouvaient venir de l'autre côté de la Méditerranée, de voir que l'on avait utilisé dans un musée national français l'arabe comme langue d'exposition. Alors pour l'ouverture de l'exposition, nous avons mis très très peu de documents. Nous avons essayé d'être sobres et de montrer cette idée de noir et de bleu à travers Goya et Miro, parce que c'est peut-être en fonction de cela que Thierry, au départ, Thierry Fabre, avait conçu cette exposition. La part de rêve avec ce tableau de Miro, cette indispensable obstination à rêver, cet onirisme présent, et en même temps, si l'on revient, nous avons voulu, puisque notre exposition s'intéresse vraiment à l'histoire de la Méditerranée, dans la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, nous avons pensé qu'un artiste majeur comme Goya était important à mettre en tension avec l'œuvre de Miro. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà, dès ce moment, dans ce fameux discours des Lumières. C'est une façon déjà, pour Goya, me semble-t-il, de déconstruire d'une façon tragique l'idée des Lumières que l'on peut apporter au peuple de l'extérieur par la force, la civilisation et le bonheur des peuples, puisque l'on sait que ces deux idées de civilisation et de bonheur des peuples sont des idées qui nous viennent des Lumières et qui nous viennent aussi de la Révolution française. Donc nous avons choisi des œuvres de Goya qui permettaient justement d'interroger cette idée de raison avec un caprice d'abord, et puis des œuvres, des astres de la guerre qui nous avaient été prêtés par le musée de Castres, qui a une collection absolument magnifique d'œuvres hispaniques et qui avait plusieurs collections de désastres, qui nous a prêté un livre, par exemple, et aussi ces images. Par exemple, dans celle que nous avons sélectionnée, la gravure que nous avons sélectionnée, nous avons, puisque Goya a écrit sur chacune des œuvres, nous avons sélectionné le mot « barbaros » ici, puisque pendant très longtemps, la notion de civilisation pour les Européens s'est opposée non pas simplement à l'idée de nature, mais aussi à l'idée de barbarie. Donc c'est aussi un discours qui permet de comprendre comment est-ce qu'on a essayé de parler de l'autre. Évidemment, ici, pour Goya, qui est le barbare ? Est-ce que c'est l'armée napoléonienne qui arrive en Espagne ? Est-ce que c'est la population espagnole qui se rebelle ? L'œuvre, évidemment, ne le dit pas, mais c'était important aussi que l'on puisse le montrer de cette manière. Alors, pour commencer après cette ouverture, nous avons voulu montrer un point de départ, en sachant qu'en histoire, il n'y a jamais de commencement. Bien sûr, on est dans une évolution de l'histoire de la Méditerranée, mais au moins que les spectateurs puissent se situer par rapport à cette Méditerranée du XVIIIe siècle. Nous avons essayé de le faire de manière mobile, dynamique et pas statique. Nous avons construit une sorte de rotonde qui permettait de reconstruire une sorte d'espace-temps et autour des œuvres qui était la peinture d'histoire de l'époque, qui montre le port de Majesté, par exemple, vraiment de manière glorieuse. On sait que le Mucem se situe exactement dans cet endroit-là, donc c'était aussi important d'être en dialogue avec le Marseille du XVIIIe siècle et le Marseille d'aujourd'hui. Et c'est une des salles où, justement, puisqu'on a quand même des statistiques de la fréquentation, c'était une des salles qui avait été préférée par ceux qui venaient visiter. Nous avons mis en tension ce tableau de Vernet, qui montre Marseille au XVIIIe siècle, avec une représentation de ce qu'était l'autre grande puissance de l'époque en Méditerranée, c'est-à-dire l'Empire ottoman. Et là aussi, c'était une façon peut-être de déconstruire certaines images Ici, on montre que, par exemple, les Européens, jusqu'à un certain temps, manient plusieurs discours vis-à-vis de l'Empire ottoman. Des ambassades ici, comme celle-ci de l'ambassadeur de France, même s'il y a des actions guerrières importantes à ce moment-là. Et nous avons voulu aussi, pour cette Méditerranée, montrer qu'elle intéresse, bien sûr, à la fois les artistes, ici, avec cette œuvre de Torel, et qu'elle intéresse aussi, par exemple, les cartographes. Je n'ai pas mis ces documents parce que ça aurait été trop long, mais l'on voit qu'il y a un intérêt européen qui est extrêmement fort à ce moment-là, qui va se déplacer d'un intérêt pour la rive occidentale, en particulier les artistes au départ ne s'intéressent qu'à la rive occidentale de la Méditerranée, pour un intérêt plus scrutateur à partir des cartes, par exemple, avec l'intérêt pour les rives, la rive sud de la Méditerranée. Alors dans ce parcours, un des moments les plus importants a été de montrer comment cette idée de civilisation a voyagé en Méditerranée, la plupart du temps, avec des conquêtes militaires. Le premier point que nous avions traité est celui de Bonaparte en Égypte. Et là, ici, évidemment, nous avons aussi voulu montrer que les pratiques, puisqu'une civilisation est faite finalement de tout ça, à la fois de pratiques politiques, militaires, culturelles, sociales, mais aussi de la vue de la vie de l'esprit, nous avons voulu rendre compte régulièrement dans l'exposition de la pensée qui a, par exemple, nourri un homme comme Napoléon Bonaparte. Ici, nous avions mis Vivant de Meung d'un côté, qui est très important pour ceux qui s'intéressent à la muséographie, mais aussi le comte de Volney, qui pense que les élites européennes, en particulier les élites françaises ici de la Révolution française, ont un rôle à jouer dans ce qu'il appelle la régénération des sociétés décadentes, qu'il considérait comme décadentes. Donc le discours européen sur l'ingérence presque obligatoire comme une mission est vraiment dans les écrits de Volney, et on sait que c'est un des livres de chevet de Napoléon Bonaparte. Nous avions par exemple dans l'exposition un des livres qui était dédié au général Kléber, qui va mourir en Égypte au cours de l'expédition. Donc c'était important de montrer aussi cette sorte de construction intellectuelle qui chemine en même temps que cheminent les faits militaires. Les citations, donc, je vous disais qu'elles étaient importantes dans l'exposition. Nous avons toujours choisi, dans ces citations qui étaient traduites dans deux autres langues, donc l'arabe et l'anglais, de montrer à chaque fois comment les acteurs de l'époque ont, à chaque fois qu'il y avait conquête ou expédition, associé cela à une mission civilisatrice. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des documents. Pour nous, c'était important qu'il n'y ait pas que de la peinture d'histoire, par exemple, qui est toujours évidemment très flatteuse, comme ici le tableau de Watteau, Bataille des pyramides, pour le conquérant. Mais nous avons voulu montrer qu'il y avait une sorte d'épopée visuelle qui se construisait, puisque en même temps qu'on avait cette peinture d'histoire, il y avait une production de masse, déjà, très importante d'images d'Épinal, et qui sont ici dans les collections du MUCEM, puisque vous savez que le MUCEM a hérité des collections du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc, nous avions très peu d'œuvres de l'ancien ATP dans l'exposition, puisqu'on s'intéressait à une ère qui, finalement, n'avait pas été fouillée de cette manière-là par les ATP avant. Mais nous avons, par exemple, sélectionné un certain nombre d'images d'Épinal qui courent dans toute l'exposition, parce qu'il ne suffisait pas de le montrer une fois, mais de montrer qu'il y a là une véritable construction d'une épopée visuelle qui est celle de, à la fois, la conquête d'une France conquérante qui est capable d'être présente sur tout le pourtour de la Méditerranée, mais aussi d'une sorte de conquête visuelle, d'une épopée visuelle qui se transmet à toutes les couches de la société, aux élites d'une part, mais aussi aux autres, y compris par ces médiums très colorés qui sont les images d'Épinal. Alors ici, un autre exemple que je voulais vous montrer dans les choix que nous avons faits, et ce qui était important peut-être aussi de vous dire, c'est que ces citations que l'on avait placé de manière, je trouve, assez élégante grâce à notre graphiste qui était Bastien Morin, qui travaillait avec Maciek Fischer. Nous avons, même si c'était au détriment de certaines œuvres visuelles, nous avons voulu privilégier ces discours tenus à l'époque. Alors, soit, je disais au début, par exemple par des poètes, soit par des hommes d'action qui, à un moment donné, ont continué à avoir ce discours qui était celui d'un discours culturel ou civilisationnel qui faisait finalement écran à la force armée qui était là. Alors nous avions, par exemple, dans l'exposition, mis la citation de Bonaparte sur un grand mur et nous avions mis à côté ce tableau de Lévy, très intéressant, même si c'est une reconstruction totale, puisque Bonaparte n'a jamais été à cheval à l'entrée de la mosquée d'El-Hazar au Caire, mais on sait que l'armée napoléonienne, la cavalerie, est entrée à cheval dans la mosquée au moment de la révolte du Caire. Donc nous voulions aussi montrer à la fois le voyage de ces mots de civilisation et aussi des faits qui ont été parfois d'une brutalité extrêmement importante, comme la répression de la révolte du Caire à ce moment-là. Alors, puisqu'il s'agissait aussi de questionner ce mot « civilisation », il n'était pas évidemment question que de montrer la brutalité de la conquête, mais aussi de montrer la part très importante que ces expéditions militaires ont jouée de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle dans la documentation de la Méditerranée. Et vous savez que Bonaparte était parti en Égypte avec les savants les plus importants de son époque, les plus dynamiques, ceux qui avaient les conceptions peut-être les plus nouvelles. Et donc ici, nous avions dans l'exposition, là je vous montre simplement quelques documents, la création de l'Institut d'Égypte, dans lequel on peut reconnaître d'ailleurs la silhouette ici de Bonaparte, et celle ici, pour ceux qui avaient vu le film de Chahine avec Piccoli, le fameux général Caffarelli, avec sa jambe de bois, donc que Chahine reprendra après. Et Chahine va faire un pendant entre la brutalité de Bonaparte d'un côté et le personnage de Caffarelli, qui est lui le porteur de science et de culture, qui va intéresser les notables du Caire, justement parce qu'il leur apporte une ouverture culturelle. Nous avions des documents également comme la pierre de Rosette, un moulage de la pierre Rosette qui est dans un musée local, le musée de l'Empérie à Salon, parce que c'est aussi un document culte. Et là aussi, on a pu voir dans les fréquentations du musée l'importance de cette pierre de Rosette dans la passion pour l'égyptologie, qui est, à mon avis, une des passions françaises qui continue jusqu'à nos jours. Alors, quel est le regard en miroir des sociétés qui reçoivent l'impact de ce rêve européen de faire partager de force ces notions de civilisation aux autres peuples? Eh bien, nous avons voulu montrer, avec le peu d'éléments que nous avions, bien sûr, qu'il y avait un regard égyptien en face du discours, dont je vous ai montré quelques exemples avec les citations, ou les images des batailles des pyramides, qui évidemment sont toutes à la gloire du conquérant. Nous avions voulu montrer, puisque nous avons des textes écrit par ces personnes-là, nous avons voulu montrer aussi le côté circonspect et parfois farouchement opposé à la pénétration française en Égypte, des chires du Diwan, structure créée par Bonaparte, en voulant s'appuyer sur les médiateurs locaux, sur les élites locales qui sont ces chires qui sortent de la mosquée d'El-Hazar. Autre élément important aussi pour essayer de savoir de rentrer dans l'univers de l'autre, ici la maison d'un des seuls récits que nous avons de l'expédition d'Égypte côté égyptien, puisqu'ici c'est la maison d'un personnage qui s'appelait Gabarty, qui a accompagné le périple de Bonaparte en Égypte, et qui a écrit une sorte de journal de l'expédition. Et donc, ce qui était important, c'est que même si cette dissymétrie, parce que nous n'avons pas voulu créer une fausse symétrie entre les différentes productions culturelles des civilisations qui ont été en contact à l'époque, mais nous nous sommes focalisés sur ces productions écrites qui contiennent aussi des images culturelles importantes à travers les mots, et qui nous montrent comment les élites égyptiennes ont reçu l'expédition d'Égypte en sachant que c'était évidemment un acte d'agression, une volonté de domination, mais en même temps en étant très attentifs à tout l'apport moderniste et tout l'apport intellectuel qu'ils pouvaient retirer de la présence de ces missionnaires armés qui étaient les Français. Et pour montrer que jusqu'à nos jours, ces sociétés sont toujours confrontées à ce qui s'est passé 2 siècles plus tôt ou 1 siècle plus tôt, il nous a semblé intéressant de mélanger les médiums. Par exemple, ici, nous avions dans l'exposition un extrait du film de Youssef Chahine, Adieu Bonaparte, dans lequel Youssef Chahine, dans les années 1985, c'est-à-dire 2 siècles plus tard, réinterroge ce moment historique. Et c'est vraiment le moment, un événement au sens historique, dans la manière où il y a un impact qui laisse une trace indélébile sur les sociétés en question. Sur conquête et civilisation, qui était une des plus grosses parties de l'exposition, la conquête de l'Algérie va aussi dans ce sens. Alors nous avons là aussi essayé d'avoir des œuvres de statuts différents, qui sont à la fois des œuvres d'art, de la peinture d'histoire, mais aussi des documents. Moi, j'ai beaucoup travaillé aux archives nationales d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous sommes, quand Jean-François Chounier tout à l'heure parlait de territoire, nous nous sommes aussi créé notre propre territoire de recherche, puisque nous avons beaucoup travaillé soit avec des chercheurs de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, soit avec les archives nationales d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence et qui ont été, mais alors dans une collaboration parfaite avec nous, nous prêtant des documents pour 7 mois, ce qui, vous savez, puisque vous êtes ici à l'INP, sont vraiment des choses très difficiles à obtenir. Soit nous avons obtenu de travailler en changeant les œuvres au bout de 3 mois et demi, soit nous avons parfois obtenu des documents pendant 7 mois, ce qui est une prouesse de la part des prêteurs. Ici, pour vous montrer comment nous avons mis à la fois des documents et des œuvres comme la peinture de Gudin que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un des peintres embarqués dans l'expédition d'Égypte. C'était aussi pour montrer la continuité dans le discours, puisque si vous connaissez la déclaration de Bonaparte en Égypte quand il arrive à Alexandrie, on peut la calquer, même si on est dans un autre moment politique en 1830, on peut calquer la déclaration faite en Égypte avec celle qui est faite aux habitants du royaume d'Alger, de respecter la culture, de respecter les personnes, de respecter les biens, alors que là, on avait aussi dans l'exposition, comme on a eu Gabarty pour l'Égypte, on avait le livre de Hamdan Hodja, qui est un lettré d'origine ottomane, qui est à Alger, et qui lui-même écrit sur l'expédition française. Et là, la question des spoliations, par exemple, elle est à une échelle, à l'échelle de toute la ville d'Alger et ensuite à l'échelle de l'Algérie. Alors je vais aller peut-être plus vite pour vous montrer ici ce qu'on a voulu faire sur le regard inversé en miroir par rapport à cet impact de l'idée française de mission civilisatrice qui arrive avec un document que nous avions agrandi qui est le plan de la Smala d'Abdelkader. En général, dans les expositions en France pendant longtemps, on a valorisé les œuvres de Vernet qui était la fameuse Smala d'Abdelkader. Vous savez qu'elle avait été exposée de manière très importante, alors que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'armée française qui occupe une ville mobile, une ville nomade, alors que les soldats sont partis. L'armée d'Abdelkader était à l'extérieur. Donc ils ont pris une ville, ils ont pris une ville avec ses civils, avec ses vieillards, avec ses femmes, avec le bétail qui était là, puisqu'Abdelkader se déplaçait. Donc nous avions voulu montrer par ce document que nous avons agrandi grâce aux archives d'outre-mer, qui étaient extrêmement lisibles dans l'exposition, comment, même si le discours français est celui de trouver une nation barbare, totalement décadente depuis que les Ottomans sont sur place, nous avons voulu montrer, à travers la conception de la Smala d'Abdelkader qui se déplaçait et qui se recomposait toujours de la même manière, comment nous étions en face d'une conception du monde, d'une sorte de cosmogonie, d'une conception politique qui a ses propres références culturelles, ses propres cadres qui n'ont rien à voir avec les cadres de la pensée européenne de l'époque, mais qui existaient et qui ont connu donc un impact évidemment destructeur et qui ont été traversés par d'autres références culturelles. Alors je vais aller peut-être un peu plus vite dans cette partie. Là aussi, c'est la figure d'un personnage important pour l'Égypte que nous avions mis en parallèle avec les Saint-Simoniens, qui sont les seuls, peut-être, intellectuels français de l'époque à avoir pensé les choses en termes d'association entre l'Orient et l'Occident, et pas en termes, voilà pour les Saint-Simoniens, et pas en termes de domination, puisque eux pensaient que la Méditerranée pouvait devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. C'est une phrase d'un Saint-Simonien célèbre de Michel Chevalier, et qu'ils font des expéditions sur place pour essayer d'unir, eux pensent par esprit positiviste qu'on peut unir par le progrès technique les civilisations, et en même temps, ils sont évidemment les premiers à proposer, par exemple, le percement du canal de Suez, mais en même temps, ils sont aussi les premiers à promouvoir un dialogue entre les cultures qui ne serait pas celui d'une domination des plus forts techniquement et militairement sur les autres. Et Mohamed Ali, le fameux Mehemet Ali, s'est servi des Saint-Simoniens. On voit ici, évidemment, qu'il s'agit d'un personnage qui a, ça se voit aussi bien dans son regard que dans sa stature, une grande présence politique. Il va se servir de tous ces intellectuels européens pour mener son projet de modernisation de l'Égypte. Je vais plus vite dans cette partie. Je vais peut-être m'arrêter, peut-être, je ne sais pas si j'ai encore... 5 minutes. Alors, pour montrer justement une autre partie, c'est peut-être pas la peine que je développe toute l'exposition qui était en 12 moments, mais j'ai voulu vous montrer les choix que nous avions faits. Quand on est parti, je suis partie de cette idée, qu'est-ce que exposer veut dire? Nous étions partis de concepts, nous étions partis de l'idée de déconstruire des notions, et nous avons voulu le faire à travers, évidemment, plusieurs moments. Alors, l'antique, pourquoi cette partie? Je pense que c'est important de vous la proposer. Il ne s'agit pas là de conquête militaire, mais il s'agit plutôt de la construction intellectuelle du XIXe siècle. Comment, au XIXe siècle, réinvente-t-on une histoire de l'Antiquité, en particulier une histoire de la Grèce, qui met cette civilisation en position de suprématie par rapport aux autres? Il y a des archéologues, on parlait des archéologues qui ont souvent un regard neuf sur les choses. Nous avons travaillé avec un archéologue de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui a sorti en même temps que l'exposition avait lieu son livre sur l'invention de la Grèce blanche. Et donc Philippe Joquet, qui était au conseil scientifique de l'exposition, a beaucoup travaillé avec nous, en partant lui aussi des travaux de Winckelmann, que vous connaissez tous, pour montrer comment le XIXe siècle... sous l'idée qu'il faut une représentation beaucoup plus scientifique de l'Antiquité que celle qui était celle des amateurs éclairés du Grand Tour du XVIIIe, par exemple, veut formaliser de manière scientifique cette histoire de l'Antiquité en donnant à la Grèce, évidemment, cette position suprême. Et finalement, ce que nous avons voulu faire dans l'exposition, c'est montrer qu'il s'agit d'une construction historique du XIXe siècle. Et d'une sorte de reconstruction en même temps de cette histoire, puisque Philippe Joquet, entre autres, mais d'autres chercheurs aussi qui sont en Grèce, peuvent nous dire que cette Grèce blanche n'a pas existé de cette manière-là, et tout ce fantasme de la Grèce blanche, qui a été aussi celui des sculpteurs néoclassiques comme Thorvaldsen, on a eu la chance d'avoir cette ébée dans l'exposition, eh bien, ont reconstruit aussi à leur manière, de manière mythique, se passer de la Grèce, qui finalement, si on a une attitude d'historien et qu'on veut faire une analyse comparatiste des sociétés dans lesquelles ce type d'esthétique a eu lieu, on ne peut pas le faire puisqu'on a extrait la société grecque et ces marqueurs culturels, on les a extraits de ce qu'étaient les sociétés du bassin méditerranéen vers les autres. Je crois que c'était un de mes professeurs à l'université qui disait, Jean-Pierre Vernant qui disait, mais ils étaient aussi barbares que les autres. Donc il faut aussi arriver à avoir une autre image. Et c'est un peu la déconstruction de cette idée que nous avions voulu faire à travers ce que nous avons appelé la Grèce blanche. Dans le philhellénisme, je m'arrêterai peut-être là et j'irai directement à la fin, dans le philhellénisme, nous avons voulu montrer aussi les liens qui existent entre la passion politique et la passion culturelle, toujours au XIXe siècle, portée par Byron, portée aussi par des artistes français, d'autres artistes européens, qui vont se battre pour libérer là aussi la Grèce de la barbarie et de la décadence, en pensant que l'Empire ottoman n'est porteur que de régression sur le plan historique. On ne se pose pas à l'époque les notions de temporalité comme Braudel va les poser Brodel, qui était aussi un des personnages auquel nous avons voulu rendre hommage dans l'exposition. Un peu plus tard, je n'aurai pas le temps de vous la montrer, mais on ne réfléchissait pas à la question de la Méditerranée en fonction de temporalités différentes. Donc, évidemment, il y avait cette idée que l'Empire ottoman, forcément, était un empire qui avait amené la régression dans toute la partie orientale du bassin méditerranéen. Ici, c'était une œuvre prêtée par la Pinacothèque d'Athènes. Nous avons eu beaucoup de prêts de musées du pourtour de la Méditerranée, montrant la réception de Byron à Missolonghi. Alors, je vais peut-être aller directement à la fin de l'exposition. Je ne sais pas, c'est peut-être pas intéressant pour vous de voir les images défiler à toute allure. Bon, je m'autorise de continuer. Nous avons fait pareil pour la villégiature. La villégiature, c'est aussi une invention du XIXe siècle, des élites européennes qui vont se propager progressivement à partir de la Riviera sur la Côte d'Azur, qui ne s'appelle que Côte d'Azur qu'à ce moment-là, et aussi gagner, puisque finalement, par la colonisation ou le cosmopolitisme, tout le bassin européen est sous domination, tout le bassin méditerranéen, lapsus, est sous domination européenne. Ce mode de vie des élites va se propager aussi grâce aux bateaux vapeurs, grâce évidemment à la possibilité des croisières, va se propager aussi, propager au Moyen-Orient, à Alger. Moi, je connais mieux l'histoire de l'Algérie. On sait qu'il y a plus de 3000 Anglais hiverneurs à Alger à la fin du XIXe siècle, ce qui montre que ce lac européen a bien existé. Sur les échanges et le cosmopolitisme, nous avons voulu démarrer avec Ferdinand de Lesseps, en référence au Saint-Simonien dont nous avions parlé au début, puisque même s'il n'est pas Saint-Simonien lui-même, on a un petit litige avec Thierry Fabre, mais il s'est inspiré des Saint-Simoniens, on va dire que même il capte leurs idées, il a le génie de l'entre-gens, et il va réussir à avoir des fonds, et puisqu'il est diplomate, tous les accords politiques pour le percement du canal de Suez et la mise en place de ce moment cosmopolite très important en Méditerranée pour les intérêts européens, que l'on va retrouver aussi bien à Istanbul. Ici, nous avions des documents qu'on expose très peu, des documents de la Banque ottomane, parce que nous travaillons avec des chercheurs turcs. Et nous avions aussi un document qui a beaucoup plu dans l'exposition, qui n'a jamais été exposé, le registre des indésirables, c'est-à-dire le contraire du cosmopolitisme. Ce que l'on ne veut pas, les réprouver, que l'on ne veut pas dans le bassin méditerranéen, et qui va des bolcheviques jusqu'aux voleurs en passant par les prostituées. Je passe vite sur ces villes cosmopolites qu'on avait mis en avant. Ici, nous avons posé la question d'un rêve partagé. Est-ce que cette Méditerranée harmonieuse voulue par les Européens a existé? Et nous avions pris à chaque fois une œuvre majeure, comme ici la Méditerranée de Mayol, pour en parler. Nous avons aussi exposé quelque chose qui est assez difficile à exposer, c'est-à-dire des revues, pour montrer justement cette profusion d'idées qu'il fallait partager, justement les cultures, essayer de les comparer, de les confronter et de sortir de cette vision de la Méditerranée qui est uniquement héritière du passé gréco-romain. Nous avions fait un éclairage. Alors peut-être c'est le moment de parler de l'aspect sonore de l'exposition. Nous avions des sources sonores dans l'exposition, en particulier ici, celui du rêve andalou de Manuel de Falla et Federico García Lorca. Pourquoi? Parce qu'en 1922, le fameux concours du Cante Rondo à Grenade est un moment où on reconnaît et on fait reconnaître aux élites européennes l'importance d'une culture à travers le Cante Rondo qui avait uni le passé arabe, le passé byzantin et le passé aussi andalou. Et vous savez que García Lorca, ses premiers poèmes s'appelaient « Poèmes du Cante Rondo » qu'il écrit dans l'enthousiasme de la préparation du concours. Alors ensuite, nous avons avancé dans le temps. Nous avions voulu traiter de la Méditerranée des années 30, qui est l'apogée de la domination européenne sur la Méditerranée, avec à la fois le fascisme italien, des œuvres qui sont peut-être plus connues de vous, comme ici ce profil continu de Bertelli, d'artiste futuriste, mais aussi ce travail qui a été fait ici par Hartfield, qui part d'une construction réelle en Éthiopie, donc on est allé profondément après le passage de la Méditerranée par les fascistes italiens, qui montre que ils essaient de renouer avec cette idée de troisième Rome, et Hartfield est capable de faire un photomontage extraordinaire puisqu'il met cette construction des soldats mussoliniens en Éthiopie en face de cette pyramide de crâne. Et documents aussi jamais exposés, en France en tout cas, des documents qui viennent des archives italiennes grâce à un professeur de l'université de Milan, Rainero, qui nous a prêté des documents qu'il a beaucoup étudiés puisqu'il est spécialiste de la Libye coloniale, des documents qui nous montrent la résistance qui s'oppose dès ce moment-là, puisqu'on est toujours dans le noir et le bleu, c'est-à-dire cette volonté de suprématie qui va générer obligatoirement au fil des décennies la volonté de s'en sortir et de sortir de ce moule qui est à la fois politique et culturel, avec la figure de Omar el-Mukhtar, qui est un résistant important. Nous avons fait évidemment le pendant avec l'Algérie, la Tunisie et les affirmations nationales qui se propagent au Maghreb dans la même période. Je vais juste terminer, si vous voulez. Voilà. Donc je vais juste à la fin. Alors vous verrez les autres thèmes que nous avons traités. Ici, dans la dernière partie de l'exposition, ce qui était sur le dernier plateau, nous avons voulu, à travers l'art contemporain, montrer ce qu'on a pu appeler, nous, la décivilisation. Comment tout ce qui a été tissé pendant ces deux siècles s'effondre à ce moment-là, sur le pourtour de la Méditerranée, en particulier ces villes dans lesquelles le vivre ensemble de la Méditerranée, comme à Beyrouth, s'effondre, en même temps que la ville devient elle-même une ville suppliciée. Pour l'Algérie, nous avons retenu l'œuvre d'un artiste algérien, et là je vais aller vite parce qu'il me reste très peu de documents à montrer, mais c'était important de faire appel à des artistes qui sont des artistes et qui travaillent toujours en Algérie, et l'intérêt du travail de Amar Bourras, c'est qu'il est photographe de presse, que pendant toute la décennie noire, il y a quand même plus de 150 000 à 200 000 morts pendant 10 ans en Algérie dans les années 90. Très peu de gens en France prennent l'ampleur de ce qu'a été, ce qui est l'équivalent quand même d'une guerre civile. Fratricide, extrêmement cruel. Il a fait des milliers de clichés puisqu'il était reporter de presse. Il a mis plus de 10 ans à en faire une œuvre d'art parce qu'on ne peut pas, à mon avis, sans cette maturation, arriver à ce que la réparation d'une œuvre d'art, cette dimension de réparation, peut être si on le fait sur le temps court, juste après le traumatisme. Donc ici, on voit par des milliers de photos le portrait du président Boudiaf qui a été abattu en public devant les yeux de Amar Bourras puisqu'il était photographe à ce moment-là. Il l'a reconstruit à travers tout le portrait des gens qui ont été assassinés parmi ses amis ou qui sont encore debout. Et c'était une installation extrêmement forte qui a beaucoup marqué le public de l'exposition. Pour la partie Jérusalem et Palestine, nous avons fait appel à une artiste israélienne, Michael Heyman, qui est ici, et qui proposait pourquoi cette œuvre, puisque nous avions commencé avec Goya, qui reprend une œuvre patrimoniale de Goya et qui la met en face d'une autre image où on voit un jeune Palestinien devant un char israélien dans le journal à Haaretz. La seule chose qu'elle touche dans l'image, c'est la tenue ici du jeune que l'on voit qui porte le même pantalon de la même couleur. Sinon, c'est la photo qui était sortie dans la presse de l'époque. Ça, c'est une œuvre de l'artiste israélienne Michael Heyman. Et nous avions pris l'œuvre de Larissa Sansour et nous avons travaillé en direct avec des artistes. Larissa Sansour s'est déplacée à travailler avec nous quand elle nous a montré, évidemment, son travail. Alors, traverser, c'était une façon aussi de rendre hommage à ce qui se passe aujourd'hui de la part des jeunes de la rive sud qui essaient de voir cette Méditerranée comme un espace à traverser, pas comme un espace positif, puisque souvent on l'appelle le cimetière marin quand on est en Tunisie ou en Algérie, parce que beaucoup de jeunes y meurent, mais aussi comme un espace d'énergie, puisque l'idée de devenir de l'autre côté est extrêmement prégnante. Ça, c'est l'œuvre d'un jeune artiste qui sort des Beaux-Arts d'Alger, que je connaissais, et donc nous avons voulu le mettre avec aussi tout le vocabulaire que les jeunes utilisent pour parler d'Alger, pour parler de l'Europe. Un vocabulaire qui va du vocabulaire érotique, un vocabulaire politique, un vocabulaire footballistique, puisque pour eux, l'Europe, et un vocabulaire aussi financier, puisqu'ils pensent trouver tout ça en arrivant de l'autre côté. Et nous finissons avec l'œuvre de Pistoletto, qui est aussi une œuvre en miroir, et qui s'appelait « Amour des différences ». Aimer les différences Pour lui, c'était présent autour de cette œuvre en miroir qui représente la Méditerranée, les différents sièges représentant les différentes cultures. Et vous savez que Pistoletto, comme artiste, œuvre aussi en même temps qu'artiste citoyen, puisqu'il a une fondation et qu'il y a eu, par exemple, des colloques. Cette œuvre vient du MAC de Marseille. Il y a 3 tables de ce type-là. Et il y a des colloques qui ont lieu autour de cette œuvre-là. Donc, c'est la fin de ce que je voulais vous montrer. Et nous avions mis juste à côté de ça, pour renouer avec le document tel qu'il est aujourd'hui, en montrant des images de 2011, des révolutions arabes ou des indignés autour de la Méditerranée pour montrer que le document a aussi sa place à côté des œuvres des artistes. Je vous remercie.